Alors, Céline est géographe, politologue, martiniquaise. Elle est donc actuellement membre associé au LC2S, qui est le laboratoire martiniquais CNRS, l'unique laboratoire CNRS d'ailleurs dans la région, laboratoire caraïbéen de sciences sociales, LC2S. Céline a effectué sa thèse à l'Université d'Édimbourg, mais je ne pense pas que vous vous soyez croisée avec...
Non. Non, non, voilà. C'est après. C'était
voilà.
Justement, non.
Nous, on s'est connus en 2010, à une journée d'études. C'était assez... je parlais de tes parents sans le savoir,
ta
famille. Voilà. Voilà.
C'est ça, la Martinique.
Voilà. et donc, tu as effectué ta thèse sous la direction de David Howard. Et cette thèse portait sur les mouvements sociaux de 2009 aux Antilles françaises. Mm-hmm. Tu l'as soutenue en 2017 et tu viens de publier dans Postcolonial Studies l'article Sorry again for my accent. Martinique is ours, not theirs. Framing conflicting identities during the 29 protests. Donc, on t'écoute sur ces mouvements sociaux de 2009.
Je prends de l'espace. Je vais rester debout. Alors, déjà, je te remercie, Christine, de m'avoir invitée. Je crois que c'est après avoir entendu ma présentation en Martinique que j'ai cette opportunité. Donc, je te remercie. Donc, effectivement, cette présentation, c'est une partie de ma thèse que j'ai effectuée à l'Université d'Édimbourg. Je parle d'un mouvement social qui a éclaté en 2009. À cette époque, je vivais en Angleterre, au Royaume-Uni, j'étais buyer, j'étais acheteuse, donc absolument rien à voir avec la sociologie, vraiment rien à voir. Mais nous étions en train de vivre un moment de crise, crise économique, du fait de la crise économique et financière depuis 2008. On l'avait déjà senti depuis 2007, mais en 2008, ça a véritablement explosé. Mais, alors je ne sais pas si c'est le flegmatisme anglais, il n'y avait pas de mouvement de grève, pas de marche, il n'y avait rien. Et je regarde à la télé en Martinique des gens qui réclament 200 euros sur les salaires et qui manifestent tous les jours. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette thèse-là. Alors pour recadrer un peu la situation, qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Donc en 2009, il y a eu un mouvement de grève qui a duré 38 jours quand même. Alors certaines personnes commencent à l'associer aux gilets jaunes, ce n'est pas les gilets jaunes, parce que les gens manifestaient tous les jours. Il y avait effectivement une plateforme, de revendication, il y en avait à peu près 200. Donc les gens marchaient dans la rue tous les jours et criaient ensemble « Martinique, c'est à nous, Martinique, c'est bataille ». Alors en traduction, « La Martinique, c'est à nous, la Martinique, c'est pas à eux ». Et ils manifestaient non seulement ils manifestaient d'abord du fait de la vie chère en Martinique, parce que la vie est très chère en Martinique, mais pas seulement. Dans cette plateforme, il y avait d'autres revendications, il y avait d'autres problèmes économiques et sociaux qui étaient soulevés. Donc, n'étant pas sur le terrain, j'ai voulu récolter ces paroles-là. Donc, mon travail de terrain, quand je suis revenue en Martinique, je n'étais pas retournée depuis à peu près 8 ans. J'ai interviewé à peu près une centaine de personnes. Cela inclut des béquets. Alors, je vais expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un béquet. Donc, des béquets, des membres de la communauté béquet, des manifestants, des contre-manifestants, des politiciens et des membres du K5F. Le K5F, c'est l'organisation qui encadrait le mouvement. Donc, ma question était, dans cette présentation, ma question est de comprendre quels sont les liens, les éléments à l'aune desquels cette société martiniquaise, que l'on définit souvent comme étant divisée, fragmentée, a penser, repenser le lien social. Et je le fais à travers les témoignages. Donc je m'excuse à la base parce qu'il y aura pas mal de photos. Donc c'est intéressant de voir comment on utilise la photo. Donc je vais l'utiliser différemment. Et je vais utiliser beaucoup de textes. Mais rassurez-vous, je vais lire avec vous. Mais quand je suis arrivée en Martinique, la première chose que j'ai remarquée, les gens disaient c'était un moment historique. C'était du jamais vu. Et j'ai remarqué aussi que très peu de personnes, enfin personne, à part un politicien évidemment qui avait dit qu'il savait exactement ce qui allait se passer, mais personne, tout le monde était étonné de l'ampleur du mouvement, parce que c'est quand même, quand je dis des manifestants, ils étaient quand même une dizaine de milliers par jour en train de marcher et de bloquer également l'île. Et donc, personne ne s'y attendait à un mouvement de cette ampleur. Et ils disaient tous, c'est un moment historique, c'est du jamais vu. Et cela contrastait également avec la fin de l'interview, où les gens disaient, ça ne va plus se reproduire, c'est fini. Et je pense que cette parole-là, elle a été, cette situation, elle a été particulièrement bien résumée par Jean-Claude. Quand je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi le mouvement a éclaté, il m'a répondu, Le volcan était en éruption, on ne peut pas l'éteindre comme ça, il fallait attendre que la lave passe. Alors son allégorie rejoint l'image de l'explosion péléenne, puisqu'en Martinique on a la montagne Pelée, donc, qui n'est pas sans rappeler la poésie de Césaire, qui décline cette population, cette société martiniquaise, qui soudainement explose et fait couler ses essences sans que personne ne s'y attende. Cela me rappelle aussi la foule rouge des voilà. Alors, cela me rappelle si la foule rouge défilant. On va m'entendre peut-être sans le micro. C'est bon. Et sans arrêt dans les rues de Fort-de-France, entre les voitures, entre les bâtisses et coulant comme de la lave. Alors, effectivement, ils étaient tous habillés en rouge et blanc. Alors, ça reste une allégorie. Hein. On m'a fait la réflexion, mais la montagne Pelée n'avait pas de lave. Oui, d'accord. C'est juste une allégorie. Cela rappelle de la lave qui coule et surtout une population qui explose quand personne ne s'y attend. Alors, mais contrairement à y a cette allégorie péléenne ramène un paradoxe qu'une éruption n'a rien de spontané. Elle a également ses prémices. Alors, il y avait un mouvement social qui avait éclaté à La Réunion en décembre 2008 à cause du prix de l'essence. Ça ramène également encore aux Gilets jaunes. À partir de là, le mouvement a coulé en Guadeloupe et il y a un mouvement très dur hein, qui a été géré par le LKP avec sa figure, avec son leader Elie Domota. Et en Martinique, ça a coulé après en Martinique avec le K5F. Et voilà le mouvement que ça a créé en Martinique. Par contre, ma thèse et ma recherche se focalisent exclusivement sur la Martinique. Alors, bien que je conçoive que les mouvements soient liés, il y a des particularités, des spécificités qui se sont dépliées dans les rues de Martinique. Déjà, à commencer, le K5F. Donc, c'est le collectif du 5 février qu'on créolise en K5F. Très peu de personnes se souvenaient de son leader, Michel Monroze, mais ils se souvenaient du charismatique Elie Domota. Donc là, il y a une différence par rapport aux deux mouvements. Aussi, le mouvement, quand je suis allée interroger des membres du K5F, donc du collectif du 5 février, il m'a été très difficile d'avoir la liste des personnes qui faisaient partie de cette organisation. Donc, au final, jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de ma recherche de terrain, j'ai réussi à avoir ces deux feuilles où il y a des répétitions, il y a certains noms qui sont grattés, on les voit pas. Et j'ai eu beaucoup de mal à réussir, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ce document. Et on voit que le mouvement s'est formé, ou du moins le K5F, le collectif du 5 février, donc l'organisation qui chapeautait et encadrait le mouvement, s'est formé au fur et à mesure du mouvement, ce qui n'était pas le cas du LKP. Ce qui ramène à dire quoi? Ça veut dire que le K5F a été fortement influencé par les manifestants et il y a une certaine spontanéité dans le mouvement. Donc, et ce manque de travail d'archivage rigoureux traduit donc, dans un premier temps, une certaine spontanéité dans la structure de l'organisation. Et une des porte-parole me dit, encore une fois, alors juste pour information, les noms que j'ai donnés sont des faux. Hein. Je vais expliquer par la suite, mais ces personnes ont véritablement existé. Alors, en 2009, alors ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'organisation, le K5F, existait avant 2009. Mais c'était une organisation qui s'appelait Intersyndicale contre la vie chère et pour l'emploi. Mais ils faisaient des réunions régulièrement, mais personne n'y venait. Ils avaient aussi une plateforme de revendications. Il y avait à peu près, il y avait 12 revendications, contrairement aux plus de 200 qui se sont rajoutées par la suite. Et elle me dit, en parlant de ça, en 2009, tout a changé. Jour après jour, les gens réalisaient que nous étions capables de lever leur voix. C'est pourquoi de plus en plus de gens ont rejoint les manifestations. Les gens sont venus nous demander, et nous aussi, on a des demandes aussi, on a des choses à dire. Nous étions complètement dépassés. Nous ne savions même pas comment nous décrire. Il y avait tellement de demandes. Quelques avocats voulaient nous aider. La grande question portait sur le statut juridique du K5F. Nous ne savions pas et nous ne savons toujours pas. Et donc, contrairement au LKP, qui a mené les manifestations ainsi que les négociations en Guadeloupe, il est apparu au cours de mes entretiens que le K5F n'avait pas beaucoup de contrôle sur le cours des manifestations. Et il y a Lucette qui m'a dit par la suite qu'elle n'était pas véritablement consciente de ce qui se passait dans les rues. Alors que pendant que les membres du collectif du 5 février négociaient avec les politiciens à la préfecture, la population, les manifestants, marchaient et faisaient le tour de Fort-de-France tous les jours. Mais elle, qui était quelque part coincée ou prisonnière, je mets entre gros guillemets, à la préfecture, n'était pas consciente de ce qui se passait dans les rues. La coalition est à ce moment devenu un corps social qui tendait à archiver et négocier les voix et les histoires parfois même personnelles des manifestants. Par conséquent, le K5F tendait à gagner en légitimité, ce qui a eu pour effet de rogner l'autorité des corps politiques et économiques. Et cela se voit notamment à travers les propos de Séverine qui me dit, soyons clairs, hein, le K5F ne pouvait pas gérer toute la situation. La population gérait tout. Le K5F a initié le mouvement, puis on a pris le relais. Ce type de témoignage se voit aussi cette idée se revoit aussi dans le témoignage de Patrick qui dit « Parfois le soir, quand les membres du K5F revenaient de la préfecture, on sentait qu'ils étaient fatigués. Ils étaient découragés. » Ça, on le voyait, mais c'était incroyable parce qu'on leur disait « Chambérette, pas molly, continuez à négocier. » En gros, ça veut dire « Restez solidaires, continuez de négocier. » En fait, le K5F était mandaté par nous. Donc là, on voit que le K5F s'est formé en fonction des interactions qu'ils avaient avec la population, avec les manifestants. Et bien que le pronom personnel « nous », comme j'ai souligné à la fin revenait, il était toujours très difficile pour mes interviewés de répondre « mais c'est qui le « nous » ?» C'est qui le Martiniquais ? Nous, les Martiniquais, nous, on est comme ça, nous, on fait ça. Et ce « nous » revenait toujours de façon fragmentée. Et il y avait plusieurs formes de fragmentation. Alors déjà, la fragmentation raciale. Quand je dis « mais c'est quoi un Martiniquais ?» Alors il y a Eddie qui est professeur, et qui me répond « un Martiniquais, c'est quelqu'un qui est né en Martinique, qui est noir, pas trop blanc, quelqu'un qui a une certaine couleur de peau, enfin tu vois ce que je veux dire ». Alors, pour moi, le plus important, c'est le « tu vois ce que je veux dire ». C'est cette négociation, ce bricolage qui se fait entre lui et moi. Alors, cette négociation se fait notamment par le nom. Moi, mon nom, c'est Théodose. Alors, il y a plusieurs Théodoses en Martinique, puisque tout fonctionne, enfin, beaucoup de choses fonctionnent par famille. Donc, quand on dit Théodose, on pense Fort-de-France, donc la capitale ou le sud. Donc, à partir du nom, on vérifie aussi si je parle créole. Donc, des fois, on répond de temps en temps en créole pour savoir si je... Donc, il y a ce dialogue-là. Et le « tu vois ce que je veux dire ?» Je comprends ce qu'il veut dire, en fait. Et c'est là tout le rapport, ce rapport flou crée une certaine relation. Mais elle reste fragmentée. Cette autre fragmentation se voit dans les propos de Denis qui dit « Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir si un béquet est martiniquais. » Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un béquet. Alors, en Martinique, il y a les béquets qui sont les descendants directs d'esclavagistes, de ceux qui avaient les plantations. Encore une fois, on fonctionne par famille. Donc, si je dis... Est-ce qu'il y a des Martiniquais dans la salle ? Yo, Yeah. D'origine. Bon. Si je dis Ayotte, tu vois de qui je parle? Très bien, voilà. Si je dis Ayotte, des pointes, Alain Hugues des pointes, tu vois de qui je parle? Voilà. Voilà. Tu sais, tout ça, ce sont des béquets. On connaît les noms, on connaît. Il y en a qui sont, on appelle les grands béquets, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont réussi au fil des années à conserver cette autorité financière qui dit beaucoup de choses en Martinique. Et donc, lui, avant de répondre à la question de savoir qui est martiniquais, il cherche à répondre à la question de savoir qui n'est pas martiniquais. Donc, lui, il dit, pour répondre à cette question, il faut déjà savoir si un béquet est martiniquais. Sa réponse, c'était non. Okay. Alors, la Martinique, autant que la Guadeloupe et les autres îles de la Caraïbe, sont souvent définies comme des îles d'échange, de mélange. Et quand je posais la question, mais est-ce qu'on peut devenir martiniquais? Prenons par exemple le cas d'un Tunisien qui arrive en Martinique, est-ce que c'est un martiniquais? Ah, là, ça posait problème. Là, on disait, ah non, il faut qu'il parle créole. L'idée, c'était avant tout le passif. C'était pas si on devient martiniquais, mais quels sont les liens qui font qu'on partage un même passé. Et quand j'entends passé, c'est aussi un même passif colonial. Mais alors, les béquets sont souvent traduisaient un système colonial. Et on parlait pas seulement du béquet, on disait la question béquet ou le problème béquet. Les béquets, pour être un peu plus, ils vivent entre eux, ils se reproduisent entre eux, ils ne se mélangent pas avec le reste de la population. Et quand je dis le reste de la population, je ne dis pas seulement les autres Martiniquais noirs, mais aussi les autres blancs métropolitains, ou alors il faut avoir quand même un certain bagage financier. Ils font quand même très attention, ils veulent avant tout préserver un héritage, leur héritage colonial. Ce qui fait ils ont réussi pendant des années à préserver ça, ce qui crée avec la communauté locale des tensions. Et mais il y a un autre mot qui revenait, le mot profitation, qui a été traduit de façon assez étrange dans les médias ici, mais je vais revenir sur le rôle des médias dans le mouvement. Il y a Vincent qui dit « Les béquets ne sont que la colonne vertébrale du système. » Mais autour de la colonne vertébrale, il y a les côtes. Les côtes sont toutes les personnes qui profitent du système. Mais ici, en Martinique, tout le monde profite. Donc lui, il ne vise pas seulement les béquets, il vise un système que l'on reproduit, un système colonial, et tout le monde profite d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, de ce système colonial. Et le mot « profitation » ainsi que la grève a créé toutes sortes de traductions. Et là, je me suis permise de prendre certains journaux, Le Figaro, etc. Je reprends juste le cas des échos. Combien coûte l'outre-mer à la France? Ou encore, l'outre-mer coûte près de 7 milliards à l'État. Mais en évitant soigneusement l'exercice de traduction, une partie de la presse quotidienne nationale inversait le discours en se plagiant plus ou moins les mêmes titres et les mêmes conclusions, en renvoyant les profités, donc ceux qui profitent, aux populations d'outre-mer, autrement dit aux habitants siphonnant le budget de l'État, au moyen de généreuses subventions d'aide et prestations sociales. Je vais revenir, rassurez-vous, je vais revenir là-dessus après. Prestations sociales, occasionnant malgré tout un taux de chômage important. Une réputation de population d'assistés se trace entre les lignes et se calcule sous couvert de l'intérêt national. Cette analyse superficielle ne se basait pas sur les études menées sur les économies des Antilles et l'intérêt n'est pas non plus d'expliquer la situation de mal-développement ni de l'impact colonial, mais de bien de circonscrire l'espace républicain. Par conséquent, toutes les questions se posent exclusivement au sein de ce cadre. Cependant, ce déni a pour effet, au contraire, de morceler ou disperser toute forme de métadiscours d'unité. Là, je reprends les termes de Christine dans un article. À l'un desquels se conjugue une expérience collective de dépossession des lieux et de la mémoire. Une mémoire qui se retrouve fragmentée. Et je rappelle juste les mots de Maya. Maya, c'est une manifestante qui disait « on ne parlait pas d'indépendance ». Dans les rues, on ne parlait pas d'indépendance, ni même d'autonomie. Vraiment, on ne parlait pas de ça. On voulait que la situation change. Le rôle des médias, par contre, bien qu'ils étaient très silencieux sur le mouvement, à part sur la Guadeloupe, sur la Martinique, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on mélangeait la Guadeloupe, la Martinique, on donnait de jolies petites cartes pour montrer où se trouve la Martinique dans la Caraïbe. Ainsi, l'amnésie médiatique et la présentation récurrente de la foule rouge, donc monolithique, s'identifient à une tournure récurrente d'une conscience apparemment monolithique, mais surtout, elle contrastait singulièrement avec la curiosité médiatique et historique pour les béquets. La diffusion du documentaire « Les derniers maîtres de la Martinique » a provoqué une envolée d'articles sur le sujet. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle « Les derniers maîtres de la Martinique » qui a été diffusé sur Canal+. Le 6 février, donc un jour après la grève, à partir de là, en France, on a découvert ce qu'était un béquet. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles sur le sujet et vraiment un intérêt incroyable. Comme je viens de faire de l'expérience avec Mademoiselle, en Martinique, on sait ce que c'est qu'un béquet. On connaît les noms, on connaît l'histoire, on en parle. Depuis petite, je connais. Et le documentaire a véritablement influencé le mouvement de façon incroyable. Le documentaire dure environ 51 minutes, que j'ai vu et qui a été largement diffusé, j'ai pas beaucoup de temps, sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. D'accord, sur les réseaux sociaux. Donc ça dure 51 minutes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les interviewés, alors j'ai fait également des focus groups, les one-to-one interviews, donc face à face, et des focus groups, ils se souvenaient de deux scènes. Alors je ne vais pas parler de cette scène, je vais juste la présenter, ce que j'appelle la séquence 1. Donc ce sont bien des séquences, c'est plusieurs scènes, c'est une séquence. C'est la pièce d'identité. Donc on voit un béquet qui est très connu en Martinique, qui arrive à l'Élysée et qui dit, et le policier lui dit, est-ce que vous avez une pièce d'identité? Donc une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ben, j'en ai pas. Voilà sa réponse, il y rentre. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y rentre sans pièce d'identité et il est rentré. Donc, sa position n'est pas remise en question. Donc là, ça a choqué les gens. Pourquoi? Parce que notre identité en tant que Martiniquais et Français est régulièrement remise en question. Et cela, notamment, s'est vu à travers les différents articles qui ont été publiés durant le mouvement social. Il y a une deuxième séquence que j'appelle séquence 2, où on voit un béquet très connu qui s'appelle Alain Hugues Despointes, qui est très, très riche aussi, puisque les grands béquets sont très riches, qui invite le journaliste à rentrer chez lui. Alors, ce qu'il faut savoir, la communauté béquet est très discrète. Okay. Ils ne se mélangent pas, on ne parle pas d'eux, on va chez eux. Quand on dit on va chez eux, c'est-à-dire on va acheter chez eux, mais on ne va pas échanger avec eux. Et donc là, c'est quand même extraordinaire d'avoir... C'est Romuald Bolsinger qui a fait ce documentaire. Mais je ne vais pas expliquer, mais il a été très malin, parce qu'il a fait il a dit qu'il allait faire un documentaire sur autre chose, mais en fait, c'est bien sûr ça qu'il voulait faire. Donc voilà comment il a réussi à les faire parler. Alors, je ne sais pas si c'est très déontologique, mais bon, bref. Et il y a deux scènes. Il y a deux scènes. Encore une fois, le documentaire dure 51 minutes. La première scène, que j'appelle la scène A, il y a le dessin rond que vous voyez, c'est l'arbre généalogique de sa famille. Au milieu, il y a Jean Assier. Alors, je ne sais pas si les photos sont claires. Il y a pas mal de connexions. On voit que c'est bien clair. On voit que c'est très bien archivé. Il y a cette scène-là, la scène de l'arbre généalogique. Et il y a une autre scène... C'est pas la même. Les deux scènes font partie de la même séquence, hein, mais elles ne se suivent pas. Il y a d'autres scènes au milieu. Donc la scène A, la scène de l'arbre généalogique, et la scène B, préserver la race. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Là, il est assis, toujours chez lui, à Bekeland. Alors chez nous, on appelle ça Bekeland. Hein, c'est là où tous les béquets, parce qu'évidemment, ils ne se mélangent pas, donc ils ont aussi leur espace. Et il dit qu'il n'aime pas trop le mélange des races, et quand il voit les familles métissées avec des gens avec les cheveux crépus, avec les cheveux lisses, c'est pas très joli, etc. Les gens ont réagi à ces deux scènes-là. Et je voulais dire, par rapport à la première scène, il dit il critique le travail des historiens en disant qu'il pourrait aussi trouver, parce qu'il y en a, selon lui, je le mets entre de gros guillemets, les bons côtés de l'esclavage et que les historiens devraient faire aussi ce travail-là. Personne parmi les centaines d'interviews que j'ai menées, personne n'a relevé cette phrase. Par contre, ils ont relevé la phrase « le mélange, c'est pas beau, on a voulu préserver la race ». Et donc, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'ils étaient surpris par cette phrase-là. Voilà mon analyse. Cependant, ce qui les marquait, c'était la visibilité, ou du moins l'exposition, autant que les procédés de lecture et de réécriture de l'histoire faite par Alain Hugues Despointes dans cette scène. La fusion des deux scènes signifierait que, contrairement à eux, donc les descendants d'esclaves, les traces du passé ont été archivées et soigneusement préservées, mais surtout, elles ne sont pas fragmentées ou fractionnées. Contrairement aux interviewés, c'est-à-dire aux descendants d'esclaves, leurs traces ont été préservées de telle manière à ce que leurs archives pouvaient être parlues par eux et non réécrites par d'autres, ce qui renforçait leur identité en tant que béquet, en tant que descendants de propriétaires d'esclaves. Contrairement aux descendants d'esclaves, l'arbre généalogique symbolisait la solidarité de par Jean Assier. Jean Assier, c'est le nom qui se trouve au milieu de l'arbre généalogique. De cette lecture, l'histoire, et par là même l'histoire martiniquaise, est lue à travers le prisme des béquets, à travers le prisme de la dépossession, puisque toutes les traces d'interconnexion ou interrelation entre les béquets et les autres communautés de l'île sont réduites au silence. Ce point se retrouve formulé par Christiane qui résume « c'est comme un cercle dans lequel on ne peut pas rentrer ». Le cercle en question n'était pas seulement l'arbre généalogique présenté dans le film, il représente la lecture bloquée et obsédée de l'histoire qui tourne en rond. Une histoire qui se répète, un continuum historique, une histoire dont elle ne fait pas partie et dont elle ne pourra jamais faire partie. Le fait que mes interviewés aient fusionné les deux scènes suggère que ce passé résonne aujourd'hui. La diffusion du documentaire et le partage du documentaire a ouvert un espace de témoignage collectif. Le mot « profitation » est aussi devenu symboliser les béquets, leur richesse, leur patrimoine. Et aussi le mot « dépossession » se créolise et se recalque dans le mouvement par le mot « profitation ». À partir de là, il y a un phénomène de renarration, cher Aspivac, qui c'est, et pas n'importe quel type de renarration, c'est une renarration héroïque. Et c'est là que je vais découler sur la deuxième partie de ma présentation. Il y a eu un slogan qui était clé, et j'ai interviewé un politicien qui est aussi député, qui m'a dit que ça a choqué ses collègues. Martinique, c'est à nous, Martinique, c'est pas à eux. C'est qui le nous ? C'est qui le eux exactement ? Donc, dans le nous et dans le eux, on peut dire et on peut insérer plusieurs choses. Ce slogan-là a été répété, scandé, chanté dans les rues pendant 38 jours. Mais là, j'ai cherché à savoir d'où venait ce slogan. Et ce slogan, je l'ai eu par hasard, des fois, quand on fait un travail de terrain, on trouve qu'on arrive comme ça sur une chance, sur une avocate. Qui me dit, le slogan, alors je vais le lire avec vous, rassurez-vous, le slogan Matinique c'est à nous, c'est-à-dire Matinique c'est à nous, c'est assez transparent, a été adopté tout de suite. C'est-à-dire qu'on nous a demandé, on a commencé la marche devant la maison des syndicats, on nous a dit que le slogan était Matinique c'est à nous, Matinique c'est pas taïo, yopé qui fait ça yolé à non payer en nous, c'est-à-dire Matinique c'est à nous, Matinique c'est pas taïo. Ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent chez nous. Alors, il faut savoir que ce slogan-là avait déjà été répété en Guadeloupe. Elle a été adaptée par la suite en Martinique, parce que le mouvement avait éclaté en Guadeloupe le 20 janvier. C'était ça. Puis, on a commencé à marcher, et quand nous sommes arrivés près du marché, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, pas encore fait 20 mètres, j'ai commencé à dire « Martinique, c'était à nous, Martinique, c'est pas taïo, en bande vagabond, profitez, volez, nous qui foutez yodewa. » C'était une bande de vagabonds, on va les mettre dehors. Un de mes amis qui portait le drapeau, je vais parler du drapeau après, a entendu ce que je disais et a demandé aux gens qui étaient autour de nous de répéter ce que je disais. Nous n'avions donc pas marché plus de 20 mètres. Il est très grand, il a une voix qui porte. Et donc, après 50 mètres, tous ceux qui étaient autour de nous, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes environ, disaient « Matinique, c'est à nous, Matinique, c'est pas taïo, en bande vagabond profitait volet, nous qui foutait yodewa. » Puis, à chaque fois que les gens disaient « vagabond », mon ami et moi, on criait « béché », donc « béqué » en créole. Lorsque nous sommes arrivés à la Croix-Mission, le slogan était devenu « Matinique, c'est à nous, Matinique, c'est pas taïo, bande béché, profitez, volez, nous qui foutez au dehors. » En fait, en moins de 20 mètres, le slogan avait déjà été créé. On n'a jamais chanté très longtemps la première version, en fait. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les gens le disaient avec tant de passion, ça signifiait que les gens étaient d'accord avec le fait que les béquilles sont des voleurs. C'est ce qui m'a surpris. Après la mort, je suis allée sur Internet, les gens le disaient. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que minuscule noyau, c'est-à-dire moi, devenait un petit groupe de 3, 4, 5, 10. Parce qu'on ne menait pas la marche. Quand je défile, je ne suis jamais devant. Je suis toujours à l'arrière. Donc l'avant n'a pas chanté pour que l'arrière répète. Cette fois, c'est la voix de ceux qui étaient à l'arrière qui a rebondi à l'avant. Et tout le monde le chantait. Lorsqu'on a commencé à marcher, il était environ 9h du matin. Vers 9h45, tout le monde chantait. Tout le monde disait, bande bêchée volée. Et donc, la grève a créé un espace public où une mémoire rayée pouvait être exposée. Les mémoires collectives du passé colonial, souvent décrites comme étant fragmentées ou barrées, ont été réutilisées par les manifestants pour construire, exposer et surtout se réapproprier un nouveau récit collectif qui ne pouvait être oublié. Ce processus de renarration, de reformulation, avait pour but de contester ce récit hégémonique qui avait notamment été exprimé dans le documentaire et qui les avait objectivés. Alors je me souviens avec Christine, j'avais fait une présentation où il y avait quelqu'un, au début, ça m'a un petit peu vexé, et puis après, je me suis dit, mais c'est pas bête. Effectivement, si on est en Martinique, il a dit, mais ça ne fait pas 20 mètres. Ce trajet-là ne fait pas 20 mètres. C'est beaucoup plus long entre la Croix-Mission et la maison des syndicats. Mais il y a un point que j'avais oublié de souligner, c'est la phrase de Ricoeur, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui écrivait dans un de ses livres, c'est l'histoire, la mémoire et l'oubli, « Se souvenir de quelque chose, c'est se souvenir de soi ». Elle commence la narration à partir du moment où elle commence à influencer le récit. Et c'est là que commence cette distance, c'est là que commence la mémoire. Donc effectivement, ça ne fait pas 20 mètres, mais elle rentre dans ce récit héroïque à ce moment-là. Et maintenant que je vais parler de la parole héroïque, ainsi tout au long des 2 mois, ils ont redéfini les rues. Ils ont redéfini les rues avec de nouveaux récits identitaires collectifs, au sein desquels ils avaient des rôles clés, des rôles principaux. Ainsi, les slogans principaux « Martinique, c'est à nous »,« Martinique, c'est pas taillot », »,« Martinique, lève », c'est-à-dire « Martinique, lève-toi », ainsi que toutes les autres formes d'exposition collective, les danses, les chants, etc., faisaient partie d'un processus complexe d'autoréflexion qui intégrait diverses dynamiques d'auto-persuasion et d'auto-invention. Et cette parole, ou du moins cet ensemble de paroles que l'on peut voir comme disparates, se réunissaient à travers des rituels. Et c'est là, parce qu'on pourrait se dire, mais il y avait plusieurs manifestants. Il y avait des hommes, des femmes, il y avait toutes sortes de... il y avait des chômeurs, il y avait des étudiants aussi. Tout le monde était représenté. Et ces paroles se réunissaient à travers les rituels. Ils sont devenus les protagonistes, les héros d'un nouveau récit social. Ce point se retrouve dans le témoignage de Laurent. Laurent a créé un chant et il chantait dans la foule avec un cas, avec son tambour. Et il a créé une très belle chanson qui s'appelle « Tiens-nous blindés », c'est-à-dire « Notre cœur est blindé ». Au cours de notre rencontre, il explique « Tiens-nous blindés » est apparu. Alors, je ne sais pas, je vais parler de cette photo-là où on voit l'atrium plus tard. Elle est très intéressante, vous allez voir après. Alors, « Tiens-nous blindés » est devenu un hymne national dont le peuple... « Tiens-nous blindés » est apparu lorsque les Martiniquais se sont vraiment sentis Martiniquais. C'est à partir de ce moment-là, nous étions Martiniquais. « Tiens-nous blindés » est devenu un hymne national. Donc le peuple martiniquais est devenu un à ce moment. Ici aussi, Laurent occupe un rôle clé, un rôle héroïque dans le récit social qu'il a cru. Il occupe un rôle clé, il est au premier plan dans la création des chansons, autant qu'il occupe un rôle important dans la création du récit social. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres interviewés. Il y a Adèle qui a créé des associations, Joël qui a créé des pétitions, Jocelyn qui a créé une émission qui s'appelle Télé Autonome Marron, il y a Aimé qui a distribué des prospectus, etc. Et il y a un contre-manifestant qui négociait à la table à la préfecture, qui disait chaque fois qu'il faisait... Alors, il était à la préfecture et il entendait les gens chanter dehors. Et il disait qu'à chaque fois qu'il se retrouvait dans les passes, lors des négociations, les membres du CAS 5F tapaient du pied pour indiquer à la foule, ils sont dans la salle, hein, qu'il faut jouer encore plus fort. À chaque fois qu'il faisait ça, les gens chantaient plus fort. C'était si fort, on s'entendait même pas dans la pièce. Ainsi, les manifestants ont constamment tenté de déformer la structure formelle de leur environnement. Les structures libres des marches se sont opposées à l'environnement formel des négociations. Le mouvement social de 2009 pourrait être associé à une forme moderne et urbaine de marronnage. Entre les interstices rigides de l'architecture de la ville, l'organisation rigoureuse et rigide de l'espace urbain, les manifestants ont recréé l'en-ville. Alors, il y avait aussi les tambours. On connaît aussi la place des tambours. C'est aussi un instrument de résistance. Beaucoup de personnes, surtout dans les contre-discours, ont remarqué ça. Beaucoup de gens comparaient le mouvement social de 2009 à un carnaval. Ce n'était pas un carnaval. Par contre, il y avait ces caractéristiques transgressives. À cause des tambours, les marches avaient la forme d'un carnaval, mais elles n'avaient pas les mêmes significations. Les tambours étaient les battements de cœur qui permettaient aux marches de respirer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils cherchaient avant tout à être visibles de par les vêtements. Et j'aime beaucoup cette photo où il y a un manifestant avec son t-shirt rouge qui est sur des échasses et qui a une sorte de pancarte. Il y a écrit César. Wow. Jesus. Toutes mes excuses. Wow. Alors là. Césaire, regarde ton... Ah non, alors là, elle est belle. Césaire, regarde ton peuple. Alors là, c'est vraiment... Il cherchait à être visible. Et ça ramène à l'idée de l'espace d'apparence d'Anna Arendt que Butler a repris lors de la Révolution arabe. Donc cet espace durant les mouvements sociaux où on cherche à être visible. Mais pour moi, être visible, c'est pour qu'il y ait cette visibilité, il faut qu'il y ait une certaine distance. Pour que quelque chose soit visible, il faut créer une distance. Et cette distance, a été bien formulée, je trouve, par Géraldine. Encore une fois, j'utilise les témoignages de mes interviewés qui disaient « C'était très intéressant de voir ce genre de paradoxe. » Au début, ils disaient tous « Ils nous arrêtent. C'est toujours à cause d'eux, des autres, c'est à cause d'eux. » Mais très vite, on a pu entendre des gens dire des choses qu'ils faisaient sans qu'il y ait d'obstacles et qui fonctionnent très bien ici. Pour cela, nous étions un peuple. Alors, on remarque que les gens utilisent le mot « peuple » et non le mot « nation ». Donc, encore une fois, la limite d'utiliser les théories nationalistes pour comprendre ce mouvement, mais ça, c'est un autre sujet. Et là, je vais juste terminer par cette parole en palimpseste, par la parole des béquets. Il a été très, très difficile pour moi d'interviewer les béquets en tant que martiniquaise noire, mais j'ai pu passer par ce qu'on appelle un gatekeeper, qui est un béquet. L'interview que j'ai fait avec lui s'est très, très, très mal passée. On s'est à peine disputé durant l'entretien, parce que durant l'entretien, il me dit, comme moi, j'ai aussi peut-être un regard particulier, je regarde fixement. Il me dit, mais j'ai l'impression que vous me croyez pas. J'ai dit, mais je vous écoute et qu'importe si je vous crois ou pas. Moi, ce qui m'attirait, c'est l'analyse. Et à partir de là, il a senti une sorte d'agenda et il me montrait, je connais beaucoup de noirs, hein, vous savez, hein, lui c'est un aigle. Alors moi, je lui ai dit, écoutez monsieur, je ne suis pas là pour connaître qui vous connaissez ou pas, je veux interroger des béquets. D'ailleurs, si vous en connaissez, je serais très heureuse de les écouter. Donc j'essayais, ça c'est mon côté bailleur, j'essayais de tourner la situation en positif pour avoir ce que je voulais. Et c'était très difficile d'avoir accès à cette communauté-là, Banco. Il m'a dit, voici le numéro, et voilà la raison. Voilà comment j'ai réussi à voir le témoignage de plusieurs béquets, notamment à Paris. Et lui, il dit, contrairement aux gens qui disaient que c'était un moment historique, c'était du jamais vu, lui, il disait, le mouvement était une erreur historique, une horreur historique, une catastrophe historique. Le mouvement était un mouvement de lâcheté. Il s'agissait de la lâcheté du gouvernement qui n'avait rien fait pour permettre aux citoyens de travailler, d'appliquer la loi. Il s'agissait de la lâcheté des maires qui ont fermé leur mairie. Et là, je vais terminer par ça, juste le témoignage d'un dernier béquet, qui a voulu, durant le mouvement social, parler. Parce que là, pendant qu'il y avait cette réécriture de l'espace et de la mémoire dans les rues, il y avait cet effacement de la mémoire également dans les rues. Donc, il y a cette personnalité béquée qui a voulu faire une affiche. Alors, dans l'affiche, il y a écrit « Restons ouverts les uns envers les autres ». En quelques minutes, il y a des manifestants qui ont trouvé une échelle, je ne sais comment, et déchiré l'affiche en deux temps, trois mouvements. Et voilà comment il m'explique le mouvement. Et c'est là qu'il y a ce moment intime qui m'a un peu échappé, où il dit en Martinique, en Martinique et même en métropole, les médias diffusaient simplement un discours démagogique. Mon problème est que je n'avais pas accès aux médias. Je n'ai pas eu accès au micro. J'ai vraiment senti qu'il y avait une monopolisation de la parole publique. Nous avons essayé de trouver des solutions pour être entendus, pour rééquilibrer la situation. Mes employés ont essayé de trouver une solution. Et je suis brutalement devenue un béquet. Même si j'ai grandi sans vraiment être conscient du statut, je ne sais pas si je peux vous parler, je peux vous en parler, mais ce mouvement était une gifle pour moi en tant que béquet. Être en béquet n'est pas quelque chose qui menait ma vie, vous savez. Béquet ou pas, on est ce qu'on est. Hein. Tout à coup, j'étais seulement qu'un béquet. Je n'étais que ça, c'était insupportable. J'étais réduit à quelque chose que je ne reconnaissais pas. J'étais le sujet de caricatures, j'ai été le sujet d'insultes. Tellement que mon fils lisait sur les murs des choses comme béquet raciste. Il avait 10 ans. Je me souviens bien, je me souviens qu'il demandait « Papa, qu'est-ce qu'un béquet ? Papa, qu'est-ce qu'un béquet ?» Mais il savait parfaitement c'est quoi un béquet. Quoi qu'il en soit, les médias, ils changent de conversation très vite. Quoi qu'il en soit, les médias donnaient un seul point de vue. Les médias ont légitimé le mouvement. Beaucoup de béquets ont senti qu'ils étaient réduits à un statut qu'ils avaient dépassé depuis longtemps. Pour, comment dire ça ? La société se refondait dans son passé et c'était tout. J'ai pas fini, mais je vais finir là. En fait, c'est juste pour expliquer que c'était une parole en palimpseste, c'est-à-dire une parole qui se déchire, qui remplace, qui se superpose. Par contre, dans ce travail de réécriture, ce qui est effacé reste quand même, parce qu'il y a toujours, hein, comme j'ai essayé de trouver son intervention, on voit les traces du passé qui sont là. Et c'est ce travail de tension qui s'est révélé en Martinique et notamment durant le mouvement social de 2009. Merci beaucoup. Désolée, trop long.